Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Glissement des terrains à l'est de la RDC, quelles en sont les causes et comment les prévenir? Nous en parlons avec le professeur Jean-Pierre Ndjibou. Il est expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Capi Service. Nous signalons que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Appelez-nous, nous allons vous rappeler dans le déroulement de l'émission pour vous donner la parole par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise ce numéro et Jean-Noël Mokondo est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce numéro d'Okapi Service.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin reçoit Maître Jean-Claude Mupompa Ngala Mouloumé, ministre provincial honoraire de la justice, droits humains, presse et information, lutte contre les violences sexuelles et relations avec l'Assemblée provinciale au Kassai central. Il a été à deux reprises secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Kassai central, avocat au barreau de Kananga et chef coutumier. Grand témoin Maître Jean-Claude Mupompa Ngala Mouloumé, c'est à suivre dimanche 23 avril 2023 à 9h05 et 20h heure de Kinshasa.
Radio Capi, grand témoin.
Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix Radio Capi. Des cas d'éboulement et de glissements de terrain sont périodiquement enregistrés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces affaissements causent souvent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Et parfois, ces glissements de terrain surviennent sans que la population soit au courant. Quels sont les facteurs qui sont à la base du glissement de terrain? Dans quelle fréquence surviennent souvent ces glissements de terrain? Et quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on vit dans une zone à risque? Nous évoquons toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit du professeur Jean-Pierre Ndjibou. Nous rappelons qu'il est spécialiste sur les questions de l'environnement et les risques naturels. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, dites-nous, que devons-nous comprendre par les concepts composés glissement des terrains?
Merci beaucoup pour la question. Le glissement des terrains est un phénomène géologique qui correspond au déplacement des terrains meubles ou rochers de long de surface d'éruption. Alors, il faut savoir que les glissements des terrains peuvent être à l'origine de catastrophes naturelles, comme on les constate généralement à l'est de la République et ailleurs, et engendrant beaucoup de morts. Il se produit généralement dans le matériau faiblement cohérent. Ça peut être de marne, ça peut être de l'argile, mais il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle beaucoup plus important, ce sont de pentes, on va y arriver. Et lorsqu'on parle de glissement de terrain, il ne se produit pas comme ça au hasard, donc il y a des forces qui interviennent. Donc un glissement de terrain, de manière générale, se produit lorsque les contraintes de cisaillement, qui sont dues aux forces motrices, telles que le poids, excède la résistance du sol le long de la surface des ruptures. Alors à ce moment-là, vous avez les deux surfaces, une partie de celle qui va glisser par rapport à l'autre.
Alors, professeur, est-ce que c'est un phénomène naturel ou des causes sont en dehors de la nature?
Non, c'est un phénomène naturel, mais il y a des facteurs aggravants. C'est un phénomène naturel, généralement, qui se produit, comme je l'ai dit, sur des pentes, sur des falaises, donc ça m'envoie sur le facteur qui peut déclencher. Donc vous pouvez être le premier facteur, ce sont les modifications du régime hydraulique, donc la saturation du matériau, l'augmentation de la dépression interstitielle au niveau de roches ou de sol. Et puis, deuxième facteur important, c'est les terrassements. Le troisième, c'est l'érosion naturelle, donc le ruissellement, l'érosion de berges. Et vous avez le quatrième, c'est l'accélération du produit par le séisme. Alors, quand vous regardez la région de l'Est en soi, donc, accompagne si vous prenez le Kivu, donc c'est pratiquement une combinaison de ces facteurs, que ce soit des facteurs qui sont liés aux accélérations de, produites par des mouvements sismiques, mais qui peuvent être des mouvements qui ne sont pas beaucoup plus sensibles, hein, mais qui sont beaucoup plus importants, mais qui jouent en modifiant et en créant de failles et des ruptures au niveau des surfaces, et aussi l'érosion et aussi les pentes. Donc nous sommes pratiquement dans une zone qu'on appelle la zone des Rift Valley, avec de montagnes, avec de grandes montagnes, avec de fortes pentes, de 30 à 40, et qui, même 80 degrés, et qui sont en mesure de provoquer ce genre de choses.
Et en RDC, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les zones à haut risque?
Oui, c'est-à-dire la grande partie des zones à haut risque, c'est toute cette partie de l'est de la RDC, certainement. Mmh. Le Grand Kivu, donc on dirait le Grand Kivu, et aussi du côté Ituri, et vous avez Kalemi, côté Kalemi également. Et là, donc, il faut comprendre que lorsque nous parlons de glissement de terrain, il y en a de plusieurs manières. Mm-hmm. Parfois, on peut parler d'éboulement, hein, et ça c'est lié à la manière dont cela se produit et aux caractéristiques, si c'est peut-être un mouvement continu ou un mouvement lent ou un mouvement brusque ou brutal. Et vous avez également le Grand Katanga, ici, comme je dis, la partie de Kalemi, éventuellement. Et pour le reste, où nous avons des érosions, comme le Kassai, hein, le milieu du Kassai, avec des sols beaucoup plus sablonneux. Vous avez aussi la ville de Kinshasa, hein, éventuellement, où on peut... mais on ne peut pas avoir des glissements de grande ampleur, mais c'est également on a des glissements qui sont liés à l'érosion, hein, l'érosion naturelle qui est aggravée par le facteur des activités anthropiques ou des constructions.
Est-ce que des pluies abondantes peuvent également entraîner des glissements de terrain?
Exactement, c'est l'élément déclenchant. C'est l'élément déclenchant. Plus il y a beaucoup d'eau, plus l'eau s'infiltre, et en s'infiltrant dans le sol, il y a des ruptures de cisaillement. Donc vous avez les limites qu'on appelle les limites d'Atterberg, les limites de plasticité. Hein, et donc vous avez le sol qui passe à l'état de plasticité, à l'état liquide, et quand il devient à l'état liquide, il coule. Donc il ne peut passer à l'état liquide que si il y a un élément qui intervient, c'est l'eau. Et l'eau arrive à provoquer ces ruptures. Alors, dès qu'il y a une rupture au niveau des cisaillements, donc la force, la résistance mécanique du sol et de la roche est anéantie et la masse écoule. Donc la pluie est l'élément l'élément moteur, le moteur central.
Oui, professeur, est-ce que les glissements de terrain reposent sur un cycle d'éclosion précis ou c'est souvent imprévisible?
Non, c'est imprévisible. Donc on ne peut pas comme on fait avec le cru. Hein. Le cru, c'est un rythme où on peut savoir et à chaque fois qu'il y a fréquence, donc on tient compte de fréquence, de cru pour des rivières. Mais ici, c'est pas le cas. Hein. Ici, c'est imprévisible, c'est en fonction du comportement du massif en question, du massif rocher ou de la pente, mais il y a quand même des signes précurseurs qu'il faut tenir compte pour essayer d'anticiper l'événement. Donc parmi les signes précurseurs, vous avez par exemple des fissures ou des renflements dans une pente qu'on peut constater. Et vous pouvez également observer un écoulement inhabituel d'eau sur la pente, hein, et vous pouvez également observer un changement soudain dans le début de cours d'eau ou l'éboulement des petites roches. Et tout ceci n'est possible, hein, pour observer ces signes que si il y a un système bien organisé de surveillance environnementale, de surveillance des risques. Et quand chaque fois on surveille, on peut avoir la possibilité de constater que le massif est plus différent de cette année ou de ce moment-ci, est plus différent de l'année passée, et on constate qu'il y a des signes indicateurs que le glissement des terrains est possible.
Oui, probable. Oui. Et professeur, est-ce que dans ces zones, il est permis ou il est autorisé d'ériger de l'habitat, et des maisons érigées dans ces zones doivent reposer sur quel principe?
Non, on ne peut pas agréger dans des zones de glissement de terrain une fois bien cartographié, étudié et constatant que, ou considérant que c'est une zone très très
délicate, à haut risque.
Il n'est pas à haut risque, donc on ne peut pas autoriser de construire, parce que les constructions des habitations et les constructions ou toute autre activité anthropique accélèrent ou favorise, devient un facteur important pour les glissements de terrain. Donc, oui. Il faut chercher tout simplement à protéger ou à revégétaliser l'endroit si l'endroit n'a pas été revégétalisé ou à voir. Donc, on va parler quand même de solutions, à améliorer le drainage et faire des exacerbations ou déconstruire de bernes ou de murs hein, de protection. Enfin, de renforcer le bas de la pente. Mais en réalité, ce ne sont pas des zones.
Oui, mais ce que l'on constate, professeur, est que, par exemple, à Goma et à Bukavu, il y a l'expansion démographique qui nécessite aussi le développement de l'habitat. Et vous voyez, à certains endroits des quartiers ou certaines avenues pratiquement éventrées, mais des gens sont encore là, ils vivent dans ces conditions.
Oui, c'est évident. Bon, le risque ne prévient pas. Hein, vous voyez, les gens, ils font ce qu'ils peuvent, on lotit, on construit comme on peut. Là, c'est partout, hein, on constate ça, même ici à Lubumbashi, où les gens construisent dans le lit des rivières, où les gens construisent dans des endroits qui sont de marécageux. Donc, les gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais en réalité, ce sont des zones à risque. Et dans un pays sérieux, ce sont des endroits qu'on pourrait facilement et protéger, parce qu'on doit avoir une cartographie des risques naturels et des zones à risque pour l'ensemble de la République, et puis une cartographie qui est liée pour chaque ville ou chaque entité, permettant de pouvoir bien surveiller les risques naturels éventuellement qu'on peut avoir dans ces zones-là, et aussi de dire aux gens que bon, tel endroit peut être occupé et que l'autre ne peut pas être occupé. Le risque peut venir à n'importe quel moment, c'est toujours imprévisible, mais il ne nous dira pas quand. Hein. Donc, ceux qui sont dans cette situation finissent toujours par avoir des petits soucis, ou pas des petits soucis, mais des vrais problèmes. Et parfois, les gens se lamentent, c'est après, vous avez vu des inondations à Kinshasa, et vous avez vu des inondations ailleurs, et vous constaterez que, bon, c'est quand les gens subissent les conséquences qu'ils finissent par réfléchir, et peut-être pas encore très bien. Jusque-là, il y a ceux qui reconstruisent encore dans le même lieu.
Oui, mais est-ce que les systèmes d'alerte, les systèmes de monitoring ou de veille informationnelle dans le domaine des risques naturels fonctionnent convenablement en RDC, professeur?
Non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là aussi un autre problème. Hein, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faudrait y avoir la possibilité du pouvoir informer, pour informer les gens, pour sensibiliser, pour informer, et dire que voilà, l'endroit n'est pas agréable, il faut arriver, comme je l'ai dit, et avoir un système de surveillance de risques au niveau de l'ensemble, donc au niveau du pays, au niveau, je dirais, national, au niveau provincial, au niveau local, et enfin de le faire. Mais malheureusement, ce sont des services qui ne fonctionnent pas. Nous sommes dans un pays où quand ça se passe, évidemment, quand il y a un risque, on est étonné. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'on agit. Ça peut passer dans les médias, ça peut passer, et voilà, dans les journaux, mais ça, 2-3 semaines, et puis silence, radio, donc on n'en parle plus. Et c'est un peu ça. Donc, on subit le phénomène et puis on continue le chemin. Hein. Donc c'est ça la grande difficulté. Il faut qu'il y ait un système bien organisé au niveau de l'ensemble des risques naturels, parce que le glissement de terrain qui rentre dans cet aspect de risques géodynamiques, et il faudrait qu'il y ait cette surveillance dans l'ensemble du pays avec des structures bien organisées. Et les scientifiques, nous pouvons donner nos expériences, nos recherches de terrain, mais il y a des structures, des techniciens qui peuvent maintenant utiliser ces informations, ces données, pour essayer de continuer à faire un travail de surveillance pour l'ensemble du pays et protéger la population. La protection civile est très importante, c'est ce qui est intéressant. Malheureusement, non, dans notre pays.
Glissement des terrains, quelles en sont les causes et comment les prévenir? Nous en parlons avec le professeur Jean-Pierre Djibou. Il est spécialiste sur les questions de l'environnement et des risques naturels. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Oui, professeur, une question spécifique concernant la ville de Bukavu, où il y a l'expansion démographique et de l'habitat un peu désordonné, anarchique. Qu'est-ce qui doit être fait à l'instant parce que les risques de glissement, d'éboulement des terrains sont presque permanents dans le sud Kivu?
Je crois que je peux donner une réponse qui est tout à fait technique et scientifique. Je blesserai le genre, mais c'est celle-là que je dois donner. Parce qu'elle ne peut pas être, ma réponse ne peut pas être politique. Donc, la meilleure façon, c'est délocaliser les personnes. Ça, c'est la meilleure des solutions. La délocalisation des personnes dans les zones à haut risque. Leur trouver les endroits spécifiques où ils peuvent construire et vivre et librement et aussi en sécurité pendant un long temps. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, qui peut accepter? Il y a maintenant des solutions qu'on peut appeler entre politiques et sociales, où les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va délocaliser les personnes? Et bon, comment les gens vont réagir? Ce sont d'autres facteurs où on entre beaucoup plus dans un raisonnement qui est passionnel. Moi, j'ai toujours considéré qu'on est trop passionnel dans certaines solutions. Il y a des solutions qui semblent être dures, mais qui sont les meilleures. On gère les personnes, on gouverne pour l'avenir, on ne le fait pas pour l'immédiat. Alors, c'est vrai qu'il faut délocaliser. Ça, c'est la réponse que moi je vous donnerai, qui est tout à fait scientifique. C'est de pouvoir délocaliser les personnes qui sont dans les zones à haut risque. Et je vous ai dit, quand vous regardez ces zones-là, vous constaterez qu'il y a des zones qu'on ne peut pas. Ça peut être les zones où il y a de fortes falaises. Ce sont des zones à haut risque, parce qu'à ce moment-là, et à cause de l'eau qui s'infiltre dans les fissures des roches, et il y a de vrais problèmes qui peuvent se créer plus tard. Vous avez ces zones à pente moyenne, et ça, ce sont à l'est de la RDC, les pentes sont beaucoup plus fortes. On est sur des versants avec des pentes beaucoup plus, donc sur des montagnes, sur des collines. Alors ça aussi, ce sont des zones à haut risque. Alors, vous avez également le terrain dont le sous-sol est creusé par les cavités, que ça peut être des cavités artificielles ou naturelles, sont également des zones à risque et qui peuvent s'affaisser ou s'effondrer rapidement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir prévenir, et en environnement, c'est la prévention. On ne préfère pas compter de morts, mais on préfère prévenir, minimiser le risque. Il n'y a pas de risque zéro, mais il faut minimiser. Si on doit minimiser le risque dans des zones à haut risque, comme des zones de l'Est où les gens construisent, le souci serait beaucoup mieux de pouvoir délocaliser. Et pour délocaliser, il faut avoir étudié aussi quels sont les sites qui soient encore probables, avec une certaine sécurité pour la population.
Nous vous gardons en ligne. Il est temps pour nous donner la parole aux auditeurs qui appellent de partout. Nous allons commencer par Charles Kisimba. Il intervient depuis la ville de Lubumbashi. Charles, bonjour. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour aussi au professeur.
Oui, nous parlons des glissements des terrains en RDC. Quelles sont les causes et comment les prévenir? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau du débat?
Merci, monsieur Tati. J'ai un peu trois petites questions. Mm-hmm. La première est la suivante. Est-ce que les cassures volcaniques sont aussi parmi les causes dans ces glissements-là de terrain? La deuxième question, est-ce que les alluvions de l'eau du fleuve Congo, cas de la province du Congo central, sont aussi à la base? Et la troisième question, quand est-ce que c'est pendant quelle saison que nous assistons à ces glissements-là de terrain? Voilà un peu les trois petites questions de Charles Kisimba Salangeta de Lubumbashi.
Charles Kisimba, s'il vous plaît, reformule un peu ta dernière question, je n'ai pas compris.
Oui, j'aimerais savoir, c'est surtout pendant quelle saison que okay. nous assistons à ces glissements-là de terrain.
Merci beaucoup pour tes trois questions. L'invité aura le temps de répondre à vos préoccupations. Le temps pour nous d'aller cette fois-ci à Bounia. À Bounia pour donner la parole à Justin. Bonjour. Justin, vous êtes en ligne. Monsieur Kalabia. Malheureusement, il est loin de son téléphone. Professeur, comment répondez-vous à l'auditeur de Lubumbashi, Charles Kisimba, qui nous a posé trois questions sur les causes? Est-ce qu'il a demandé, est-ce que le cassure volcanique? Oui, professeur, allô, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, je vous écoute.
Voilà, je disais, comment répondez-vous à Charles Kisimba de Lubumbashi?
À la première question de notre ami Charles Kisimba, les cassures, donc si on dit des fissures volcaniques, ne sont pas de cause, ce sont des facteurs, hein, ce sont des facteurs aggravants. Parce que lorsqu'il y a fissure sur sur un volcan, sur une montagne, et ça favorise l'infiltration des eaux. C'est un facteur aggravant. Comme nous l'avons déjà dit, mais c'est pas une cause. Mmh. Et le moteur principal, ici, nous avons dit, il s'agit de l'eau. Hein, c'est des précipitations, de fortes précipitations, et qui cassent pratiquement la cohésion ou la résistance mécanique de la roche, mmh. Du massif, ça peut être du sol. Alors, en ce qui concerne
les alluvions,
oui, s'il vous plaît.
Sa deuxième question concerne les alluvions de la pluie. Là, si elles peuvent aussi entraîner au fait les glissements des terrains. Il a évoqué les cas, par exemple, du Congo central.
Oui, je vous l'ai dit que les alluvions ne peuvent pas provoquer le glissement des terrains. Ce qui provoque le glissement des terrains, c'est l'eau. Et l'eau de massif. Mais les alluvions, il faut les alluvions se sont mélangés avec d'autres éléments. Et constituent maintenant un massif ou un sol qui est argileux ou qui devient le sol de marne, et ça devient un support ou un massif qui peut être entraîné, mais il ne peut pas provoquer. Il peut être aussi entraîné lorsqu'il devient, il s'est constitué, il s'est mélangé avec d'autres éléments minéraux et organique et constitué peut-être un type de sol bien particulier, et alors à ce moment-là il peut subir le glissement des terrains s'il s'est retrouvé dans des façons, dans des de la configuration sur une pente et que tous les facteurs sont réunis pour que ce soit réellement fait pour un glissement des terrains. Mais dans les cas dont parle notre ami, non. Les alluvions ne peuvent pas constituer, être une des causes de glissement de terrain. À sa troisième question, il a posé la question de savoir à quel moment de l'année.
Oui, la saison la plus favorable à l'éclosion, oui.
C'est la période de précipitation.
La saison de pluie.
C'est la saison de pluie. On peut avoir ça. C'est plus le massif est en train de prendre la quantité d'eau et plus la résistance diminue. Et sa cohésion au niveau du massif aussi diminue, et la résistance mécanique diminue, alors ça provoque l'instabilité du massif. Et lorsqu'il y a une instabilité, le massif va couler en fonction de la pente. Hein, donc une pente, et donc le glissement des terrains dépend, s'il faut le dire, aussi de la géométrie du terrain. De la géométrie du terrain, de la résistance au cisaillement des sols ou de la roche en question. Et ce sont les éléments les plus importants qui entrent en jeu en ce qui concerne le glissement des terrains, la géométrie et la résistance. Or, pour que la résistance puisse être anéantie, il faut qu'il y ait la présence de l'eau, et c'est pendant la saison de pluie.
Oui, professeur, alors je voulais savoir, scientifiquement parlant, généralement, ces genres d'espaces fonciers sont réservés à quel type d'activité?
Alors, je crois qu'il faut... Tout dépend de ce qu'on veut. On observe que si la gravité est beaucoup plus
élevée,
plus importante, on va trouver d'autres mécanismes pour le faire. Mais il faut savoir que à partir des solutions qu'on doit prendre, ce sont des solutions coûteuses. C'est à partir des solutions qu'on peut prendre qu'on peut envisager d'autres. Je vais donner une des solutions, par exemple. Une des solutions permet de pouvoir excaver le haut de la pente. Excaver le haut de la pente signifie diminuer la pente. Alors, si vous voulez vraiment construire une activité X bien déterminée, alors on est censé diminuer la pente. Or, excaver la pente, par exemple, d'une grande colline, ça demande suffisamment de moyens. Une autre solution, c'est de construire une berme ou un mur de
soutènement.
Oui, afin de renforcer le bas de la pente. Donc, soit encore de réduire la dénivellation de la pente. Et aussi d'améliorer le drainage. Alors, toutes ces solutions, elles doivent être combinées sur un endroit bien déterminé, afin de permettre, si on veut y mettre une activité quelconque bien déterminée.
Donc, ces principes urbanistiques, professeur, doivent précéder au fait l'habitat.
Exactement. Exactement. Parce que si on doit le faire, une personne, un habitant, un Congolais X, n'a pas ce moyen de le faire parce que ce sont des solutions qui sont coûteuses. Alors, il faudrait qu'un système soit bien organisé pour ce genre de sites et enfin de les aménager et de demander par après qu'ils soient régis des activités X et Y bien définies.
Oui, professeur, je retourne au standard hein, pour donner la parole à monsieur Aboubakar. Aboubakar, oui. Il est Aboubakar, lui, il est à Bounia. Aboubakar, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Je ne suis pas à Bounia, je suis Aboubakar Issa, depuis Badengaïdo, dans la province de l'Ituri.
En Ituri. À vous la parole, allez-y, on vous écoute.
Voilà, je salue le professeur et je suis en train de bien suivre ses explications. Mais avant de poser ma question, je voudrais ici acquiser la léthargie hein, des services habilités dans l'exploitation artisanale des mines, parce que nous avons assisté à beaucoup de dégâts humains, vu que les conditions d'exploitation ne sont pas vraiment respectées par ces services qui ne se basent que pour l'argent, ne contrôlent pas, ils ne se basent même pas pour la vie humaine, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Je voudrais... demander la question au professeur, quelles sont les étapes à suivre pour qu'un site minier soit exploitable, donc soit fiable, afin d'être exploité sans que ça puisse causer dans l'avenir beaucoup de dégâts. Merci.
Oui, Aboubakar, vous avez pleinement raison, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas de glissement de terrain dans des sites artisanaux d'exploitation minière artisanale. Hein, donc, l'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation qui est si pertinente. Cette fois-ci, donnons la parole à Justin. Justin, il est à Fungurume. Bonjour.
Bonjour, merci Marcel. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
C'est plutôt Tati qui est à l'antenne, allez-y.
Ah, monsieur Tati Marpoukou.
Oui.
Sinon, je salue aussi notre invité. La, La situation semble pertinente ici à Fungurume. Nous avons des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il n'y a pas longtemps quand il y a eu le glissement de terre à Kakanda, et on a enregistré même on a enregistré des morts et d'autres disparus. Et ça, c'est encore ici à Fungurume, là où une très grande population ont intergé leurs maisons sous la ligne haute tension. C'est pourquoi il y a des pleurs et des grincements dedans. Et j'ai précédé par vous dire merci pour le choix de ce sujet. La faute revient, pour répondre à votre dernière question que vous avez posée dans le sujet. Donc la faute revient à l'État. Il n'y a pas, avant de donner le permis de bâtir, il faut aussi passer pour récupérer le permis de la conformité. Et on construit, comme nous avons eu une explosion démographique ici à Fungurume, les gens qui venaient suivre des minéraux, et les conditions de vivre se trouvent sur une même point. Alors, les gens préfèrent aller même là où on les interdit de construire, parce qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout comme ça, il peut avoir les congélateurs pour vendre de l'eau, et même du sucré. Alors, on se retrouve exposé. Quand il y a quelque chose, il y a les jeux de ping-pong ici avec les sociétés et la population. La population dit que non, ce sont les bassins de gens qui exploitent les minéraux qui débordent quand il y a la pluie. C'est la même chose même au Kakanda. Et les miniers aussi disent que nous sommes attaqués par les fraudeurs des minéraux. Donc on se jette les balles, on ne sait pas qui est en train d'ouvrir pour emporter les gens. Et même les gens ne visent même pas là où ils vont construire. Ils cherchent seulement là où ils seront plus proches de la ville pour ériger leur maison, même dans des ravins, même sous la ligne de haute tension. Donc ici, tout est permis. Là où vous devez trouver l'espace pour construire, il n'y a pas les services qui viendront vous interdire. Mais voilà aujourd'hui, les centaines de familles, si peut-être dans des jours, ils vont passer nuit à la belle étoile, par manque de surveillance, par manque de donner des permis de bâtir, par manque de passer pour vérifier le permis de la conformité. Nous sommes tombés dans des azurois ici à Fungurume. Ce sont les dangers. Pour les dangers, il faut que soit nous avons l'état dangereux ou les actions dangereuses. On peut vivre avec les dangers, mais en les contrôlant.
Oui, monsieur Justin, s'il vous plaît, quelle est votre préoccupation principale au fait?
Quelle sera la
vous déplorez l'anarchie au fait qui prévaut dans le secteur au niveau des Fungurume, c'est ça?
Oui, l'anarchie et la hausse des prix des parcelles. Parce que si je ne peux pas aller là où je peux louer, je peux trouver facilement la
construction. Un lopin de terre dans une falaise, vous achetez et puis vous construisez la maison, c'est ça?
Oui. Donc il n'y a pas les contrôles et les gens, les familles seront peut-être exposées à n'importe quelle maladie quand ils vont commencer à passer la nuit à la belle étoile.
Merci beaucoup Justin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Fungurume que vous intervenez. Cette fois-ci, retournons à Kinshasa pour donner la parole à Gaston, à qui on dit bonjour.
Bonjour, merci.
Allez-y, à vous la parole.
Oui. Mais vous savez, glissement de terrain, au fait, à l'isolement, on m'a bengi, non? Ma bengi, c'est un terme.
Les érosions, c'est ça, aux érosions?
Érosions.
Oui, c'est parmi les facteurs des risques, oui. Allez-y.
Glissement de. Mais moi, je vais d'abord poser la question par rapport au lotissement. Vous savez, il y a des gens qui ont dit qu'ici, les gens peuvent habiter, surtout dans des milieux urbains, déjà, et surtout dans d'autres secteurs. Secteur aussi, surtout secteur, territoire, on peut dire. Dans d'autres coins de la République à l'intérieur, il y a ce phénomène Mabengi, comme on dit là, il y a érosion. Donc, moi, je veux d'abord savoir qui lotit. Qui décide qu'ici, les gens peuvent habiter ou pas. C'est l'État ou les chefs coutumiers, ou n'importe qui. Qui se prévoit être un chef. Parce que dans nos villes aujourd'hui, on constate aussi ces engouements. Mais ce qui est vrai, il y a aussi les terres, si je peux dire, les terrassés, comme on dit toujours. Il faut qu'on a canalisé les eaux pendant la pluie. Parce que pendant la pluie, que ces glissements de terre là, ça aggrave et ça peut causer des dégâts par le fait que les gens habitent là-bas. Peut-être par le plaisir d'y habiter, ils sont habités, mais il y a des dégâts collatéraux, entre autres, des morts pendant les glissements de terre là ou des trucs comme ça, dans des villes de la RDC. le kiloti, c'est un grand désordre.
Ok, c'est bon, j'ai compris les fonds de votre question. L'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup, Gaston. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Restons dans la même ville pour donner la parole cette fois-ci à Glody. Glody, bonjour. Glody, vous êtes là? Malheureusement, le temps de relancer Monsieur Glody qui a appelé de Kinshasa. Professeur Jean-Pierre Djibou, commençons par Justin. Justin qui a appelé de Badengaïdo au niveau de la province de l'Ituri. Et comment répondez-vous à sa question concernant les éboulements des terrains dans les zones d'exploitation minière?
Ok, c'est tout à fait normal qu'on ait des éboulements dans le site minier. Je crois qu'en parlant des facteurs, nous avons essayé de spécifier que un des facteurs importants qui peut provoquer le glissement des terrains, ça peut être également le cavité intérieur. Mm. Les cavités intérieures qui peuvent être soit naturelles, comme des grottes, ou encore artificielles. Donc, si nous prenons les activités de ceux qui font le mine, donc le creuseur artisanaux, c'est-à-dire ils les font sans tenir compte de toutes les techniques possibles, ils les font de manière artisanale, comme le monde le dit. Alors, dans ce moment-là, il y a un déséquilibre de la pente. Lorsqu'on déséquilibre la roche, le massif, et la nature, comme on dit, a horreur du vide, il se passe toujours un mécanisme de tassement. Mm. Et ce mécanisme de tassement peut être provoqué soit par un petit mouvement sismique à l'intérieur donc de la zone, ou très proche de la zone, soit tout simplement parce qu'il y a eu suffisamment beaucoup de pluie, et soit tout simplement il y a eu un poids et qui a été provoqué par des engins X qui sont utilisés dans le mine afin de pouvoir faire de couvertures.
Donc, vous comprendre, professeur, excusez-moi, les sites miniers également reposent sur des aménagements spécifiques, au fait, pour éviter ces genres pour minimiser, au fait, ces genres d'incidents.
Non, ça signifie que le site minier, mais il faut savoir que le site minier, les creuseurs, ils vont en dessous lorsqu'ils descendent en dessous du massif.
Dans les sols, oui.
Ils laissent une cavité. Mm. Et plus ils continuent à chercher de minerais, tant qu'ils n'en trouvent pas à tel endroit, ils vont continuer.
Ils avancent,
ils vont aller à 200 mètres. Mm. S'ils ne trouvent pas à 200 mètres de profondeur, ils vont à 300 mètres. Alors, ces vides, ce sont des vides qui provoquent un déséquilibre de la pente du massif. Mm. Et c'est aussi, en dehors de ces déséquilibres, c'est aussi une destruction, un affaiblissement de la cohésion ou de la résistance mécanique du massif en question. Mais alors, le massif reste dans une situation de déséquilibre, donc il suffit d'une action extérieure simple, ça peut être une action hydraulique, ça peut être un mouvement d'eau au niveau de la nappe phréatique en dessous, et lorsque l'eau monte ou lorsque l'eau descend, et pendant ces temps de battement de la nappe, et ça peut provoquer également des glissements, ça peut être également par un mouvement sismique, parce que le mouvement sismique est aussi une action extérieure qui agit en dehors de l'action climatique. Donc, nous considérons cela, les glissements qu'on a dans le mine, comme liés aux facteurs anthropiques, à l'activité humaine. Ce ne sont pas de glissements naturels.
Oui, avant d'évoluer sur la question de Gaston de Kinshasa, qui a voulu savoir qui est censé lotir en RDC, est-ce que ce sont les chefs coutumiers ou l'État congolais qui a le droit d'autoriser le lotissement dans un espace donné? Nous donnons la parole d'abord à Glody, Glody qui est à Kinshasa, bonjour. Monsieur Glody, réduisez le volume de la radio, écoutez-nous au téléphone. À vous la parole, allez-y. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. J'ai dit ceci, merci pour la parole à tous. Moi, je pense que le sujet d'aujourd'hui est très capital. Prenons l'exemple de Kipiti. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours glissement de terrain dans la ville de Kipiti? C'est l'homme qui est à la base de ça, ou ce sont des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre certaines choses. Si le professeur peut nous aider à comprendre et Deuxième question, quels sont les moyens alternatifs pour éviter les glissements de terrain? Parce que si les professeurs nous disent, je pense que ça peut aider les uns et les autres qui nous écoutent à partir de ce moment. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Glody, hein, pour ta concision dans les questions que vous avez posées. Allons cette fois-ci à Kindou pour donner la parole à l'ingénieur John. John, bonjour.
Bonjour, Tati. Bonjour au professeur qui est devant vous. J'apprécie beaucoup son intervention, quoi.
Nous vous écoutons. Alors, allez-y.
Merci. Alors, je disais ceci. Je n'ai pas envie de le dire que les politiques ne donnent pas du travail et des moyens aux techniciens pour l'amélioration des conditions d'existence au Congo, notre pays. Regardez, le Japon, par exemple, une zone de subduction qui connaît les tremblements, les mouvements sismiques à tous les jours, mais il construit des gratte-ciels. Les Pays-Bas, regardez les travaux qu'ils font chaque jour avec le modèle mathématique. Et nous aussi, on a étudié pour la prévision des mauvais temps. Regardez Dubaï qui a construit une cité sur la mer, une cité et tout un quartier résidentiel. Mais maintenant, là que je demande, que font les Japonais que les ingénieurs congolais ne peuvent pas faire? Que font les Hollandais que les Congolais ne peuvent pas faire? Que font les Arabes que les Congolais ne peuvent pas faire? Vraiment, c'est avec l'intensement au cœur que j'apprends que là où les autres contrôlent même l'eau, on construit sur l'eau, mais nous nous plairons, mais puisqu'il y a un terrain qui est susceptible de donner, de céder à un glissement de terrain. Le professeur a bien dit, par exemple, le professeur a dit autour de l'analyse granulométrique, vous voyez, les limites de densité, les limites de plasticité d'un matériau, vous voyez, donc nous connaissons même les calculs de ce genre de travaux, mais on ne nous donne pas le travail, malheureusement. Vous voyez, à tout moment, nous ne faisons que pleurer.
Merci beaucoup, ingénieur John. Hein, nous comprenons que vous êtes dans ces domaines de la technicité, de l'ingénierie. L'invité aura le temps de répondre à ta préoccupation. On n'alloue pas assez de moyens aux spécialistes dans le secteur pour bien faire les travaux et prévenir ces genres de risques naturels. Professeur, je reviens à vous. Comment répondez-vous à Gaston? Les lotissements, qui est censé le faire? Est-ce que c'est l'État congolais? Est-ce que ce sont les ayants droit coutumiers?
En fait, ce sont des choses très complexes dans ce pays. Ce qui est vrai, c'est l'État congolais qui doit s'en occuper. Donc il y a des structures de l'État congolais qui peuvent s'en occuper. Mais je constate que pour certains lotissements, et l'État congolais il demande, et on est censé d'abord acheter chez le chef coutumier, avoir le document des chefs coutumiers avant de passer par le service de cadastre et ainsi de suite, de titres immobiliers pour avoir presque une procédure à ce niveau-là.
Oui, professeur, et comment répondez-vous à Glody? Je ne sais pas si vous avez une idée sur les reliefs de la ville de Kikwit. Il a dit que la ville de Kikwit, elle est vraiment exposée à des cas de glissement de terrain. Qu'est-ce que vous dites par rapport à sa préoccupation? Qu'est-ce qu'il doit faire pour réduire ces genres d'incidents naturels?
Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire bien avant, parce que je ne connais pas très bien la ville de Kikwit, mais ce que je peux vous montrer ici, c'est de dit qu'il y a des actions extérieures les plus importantes qui agissent sur le massif, le sol en question. Et nous avons dit que la première action importante, c'est une action hydraulique. Et la deuxième action importante, nous avons dit qu'il s'agit ce sont des actions climatiques. Et la troisième, ce sont des actions anthropiques. Suivant, vous avez le mouvement sismique. Et vous avez aussi les constructions sur les pentes, mais qui sont liées aux activités anthropiques. Alors, si on voit ce qui se passe, peut-être
dans la, cette zone de Bandundu. Est-ce que c'est lié à une action de pluie, à la qualité de sol ou également à l'exploitation minière et localement? Et donc il faut qu'on sache réellement et qu'est-ce qui est à la base. Mais en réalité, s'il y a des glissements, c'est qu'il y a un problème et qui soit lié. Si ce sont des glissements naturels, ça signifie c'est à un déséquilibre du massif et dans cette zone qui peut être liée tout simplement par soit des cavités naturelles ou anthropiques ou également par les constructions anarchiques.
Avant de répondre à la préoccupation de l'ingénieur John, hein, qui a fait allusion au Japon, qui est dans une zone sismique à risque très élevé, je rentre au standard, hein, je retourne au standard, donner la parole à un auditeur qui appelle de Kasumbalesa. Il s'appelle Baudouin. Baudouin, on n'a plus assez de temps, allez-y rapidement. Bonjour.
Bonjour, merci. En tout cas, merci encore de m'avoir associé à ce débat. Ma préoccupation est tout simplement que si l'invité peut nous aider, hein. Moi je pense dans tout ça, c'est la négligence dans les services, surtout qui gèrent les affaires.
L'urbanisme et l'habitat.
L'urbanisme et l'habitat et même le cadastre. Est-ce qu'il y a des techniciens à la matière pour aider la population quant à ce qui concerne ces glissements? Parce que nous constatons que la population est ignorante de tout ce qui se passe. Nous avons seulement besoin juste d'avoir un lopin de terrain. Et nous sentons qu'il y a complicité avec ces gens là-bas. Peut-être qu'il y en a des techniciens, mais profitant de l'ignorance de la population, ils vont les mettre n'importe où, connaissant bien qu'il y a les dangers, mais ils les donnent seulement à moindre frais. Je voulais juste savoir si est-ce qu'il y a les techniciens là-bas. S'il y en a, vraiment que nous puissions quand même appeler à leur conscience, qu'ils puissent quand même aider la population.
Merci beaucoup, M. Baudouin. On est vraiment coincé par le temps, excusez-nous. Le temps de donner la parole à l'invité. Professeur Jean-Pierre, qu'est-ce que vous dites? Comment répondez-vous à John de Kindu, ingénieur John?
Oui, mais je pense que c'est vrai qu'il y a des compétences dans cette république, mais il faut savoir que le malheur pour le japonais, la souffrance pour... les Hollandais a permis à développer les techniques. Et malheureusement, dans notre pays, la souffrance et le malheur ne nous facilitent pas de pouvoir développer d'autres techniques et de s'adapter. Mais au contraire, on est dans une zone où on se résigne, où les choses marchent comme ça peut. Donc, et ça, c'est malheureusement, c'est comme ça qu'évolue la République démocratique du Congo, mais il faut du temps.
Est-ce qu'il y a une carence d'expertise, une carence de main-d'œuvre dans le secteur?
Non, il n'y a pas de carence. Il n'y a pas de carence, mais simplement qu'ils se sont. Faire des études de glissement de terrain, ça n'est pas intéressé quel homme politique personne. Les glissements de terrain, bon, demander, donc ils n'en ont pas besoin, c'est quelque chose qui passe. Mais c'est quand il y a des morts, puis à ce moment-là, on peut venir avec les aides éventuellement.
Humanitaire, les médias s'emballent.
Oui, à ce moment-là, ça devient politique. Et
ça fait la une des journaux et autres, oui.
Voilà, on s'exhibe, mais en réalité, on n'anticipe pas. Nous sommes dans un pays où on n'anticipe pas les risques. Et il faut avoir une culture d'anticiper les risques et de pouvoir... Parce que la politique, c'est de bien gérer la population, c'est d'anticiper, c'est aussi de pouvoir garantir les générations futures. Alors si on n'anticipe pas, bon, on vit l'immédiat, donc vous voyez ce que ça représente. Je crois que les compétences, il y en a dans ces pays, les études sont là, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de scientifiques, on a beaucoup de techniciens. Dans tous les services, comme disait notre ami même de Kasumbalesa, dans tous les services de cadastre et tout ça, il y a des techniciens, certains qui sont formés également par nous, qui sont passés dans nos universités et qui connaissent les techniques. Mais malheureusement, et ce qui compte, c'est l'argent. Hein, c'est l'argent immédiat et par tous les moyens. Donc, une société qui se base sur des choses très simples, c'est très superficiel, ne peut pas avancer, ne peut pas aller plus loin.
Professeur, donc, s'il faut me résumer, concernant la prévention des glissements de terrain, et donc, il y a deux dimensions pour le cas, par exemple, des zones qui sont à haut risque, c'est la délocalisation de la population, et puis mettre les moyens pour la prévention. Ce sont les deux conseils pratiques dans le cadre de ces sujets.
Exact, exact.
Nous le considérons comme votre dernier mot, professeur Jean-Pierre Ndjibou. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en environnement et risques naturels. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de ces sujets. Excellente journée, à la prochaine occasion.
Ah, merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Okay.